Vous écoutez France Culture.
Fort intérieur avec Alain Amselec, une émission préparée avec Anne de Biran, Martin Delafosse et Didier Lagarde. Vers où aller ? On peut entendre cette question selon plusieurs sens. Vous la posez au plus haut niveau, le destin de notre civilisation déspiritualisée où chacun se replie sur un égoïsme qui ne donne pas le bonheur. Alain Amselec, vous êtes né en Algérie dans une famille d'origine juive. Après quelques tentatives dans différents domaines, différents métiers, vous entrez corps et âme dans la psychanalyse, 4 ans d'analyse bio-énergétique. Alors nous verrons de quoi il s'agit, parce que c'est une forme d'analyse qui est peu connue. 7 ans d'analyse jungienne, 4 ans d'analyse freudienne. Vous êtes donc un cas qui serait, paraît-il, unique. Bien. Alors, du côté des publications, elles forment un triptyque. Premier volet, l'écoute de l'intime et de l'invisible, aux éditions Serp en 2006. Deuxième volet, l'appel du réel, Serp 2007. Et voici la dernière née, j'en parle au féminin, cela vous convient, j'espère.
Oui, pourquoi pas.
Donc, la dernière née de vos publications, l'ouverture à la vie, la psychanalyse au XXIe siècle, aux éditions des Clés de Brouwer en 2010. Eh bien, nous en aurons des sujets abordés, l'analyse, l'écoute, Freud, Jung, le corps, le féminin, la liste n'est pas exhaustive. Commençons par les racines, une famille séfarade qui remonte loin, très loin, et dont les valeurs continuent de vous accompagner. Alors, ce qui serait intéressant de savoir, avant de pénétrer dans vos livres, Alain Amselec, c'est quelle était l'atmosphère de cette famille en Algérie, quelles étaient vos lectures, votre système de valeurs et vos relations aux autres, puisque maintenant, toute votre vie consiste à essayer de comprendre ce qui se passe dans l'inconscient des autres.
Bien sûr, donc je suis né dans une famille séfarade. Mon grand-père paternel était rabbin et d'une longue lignée de rabbins, de père en fils. Mon grand-père venait de Gibraltar, où il avait la nationalité anglaise. Et il était descendu à une certaine époque au Maroc, puis il est arrivé en Algérie et s'est arrêté dans un petit village d'Algérie qui s'appelle Teniat El Had, où mon père est né. Et quand mon père, c'était une famille qui avait, mon grand-père avait 10 enfants, 5 garçons et 5 filles, donc une famille très nombreuse, comme en avaient beaucoup les familles juives de cette époque et en Algérie. Et quand mon père a eu dans les 20 ans, il est venu avec ses frères s'installer à Alger. Donc c'est là que je suis né et bien entendu, l'ambiance, la vie dans cet endroit-là m'a énormément marqué. C'est vrai que j'ai un peu plus tard, j'ai découvert que j'étais avec des professeurs de lycée qui étaient les mêmes qui avait eu Camus, notamment mon professeur de lettres, Achille Laher, avait été pendant 2 ou 3 années le professeur d'Albert Camus, qui était lui au lycée Bugeaud, tandis que j'étais moi à 20 ans de distance au lycée Gautier. Et comme ça, toute ma vie, j'ai retrouvé ce que Camus avait vécu en Algérie et qui ressemblait d'une certaine manière beaucoup à moi. Non pas la misère qu'il a connue au départ. Je n'étais pas dans le même milieu social, c'est vrai. Mais ce qui est formidable chez Camus, c'est que malgré tous ces handicaps de départ, et il a surmonté tout ça, et c'était un être plein de vie, plein de joie, et il attribuait beaucoup à l'Algérie, comme moi.
Donc vous pensez que votre pulsion très forte vers la vie vient quand même de vos racines algériennes?
Absolument, voilà. Absolument. Et les racines, c'est-à-dire c'est la Méditerranée.
C'est la Méditerranée, mais les racines juives, le Talmud, les grands penseurs juifs vous ont beaucoup marqué également, puisque on les retrouve dans chacun de vos livres.
Oui, c'est une ambiance, mais c'est d'abord mon grand-père qui m'a marqué. Et quand j'étais jeune... Bien sûr que la famille était très pratiquante, donc jusqu'à 18 ans, je suivais à la lettre les prescriptions de la religion juive. Mais en même temps, étant donné aussi que j'étais dans un lycée, dans des écoles françaises, et que j'étais quand même bien intégré à la culture française, je prenais de la distance par rapport au judaïsme à cette époque. Donc, dans toute ma petite jeunesse, enfin ma jeunesse jusqu'à, disons, 20 ans, c'était l'image de mon grand-père paternel qui était pour moi influente. Plus que mon père.
Et pourquoi? C'est moi qui me transforme en psychanalyste, là.
Oui. Pourquoi? Parce que j'étais dans un idéalisme et que mon grand-père représentait à mes yeux l'image d'un sage. C'était sa fonction de rabbin. Qui était pour moi extrêmement prégnante.
Et vous auriez voulu
surtout
suivre...
Surtout, j'ai été mon grand-père est mort à 10 ans, hein, quand j'avais 10 ans. J'étais, pendant ces 10 premières années, assez en contact avec lui. Et je l'admirais beaucoup, enfin, et en même temps, il se dégageait de lui quelque chose, une certaine atmosphère qui faisait que je crois que j'étais dans un idéalisme. Et d'ailleurs, ensuite, dans mon analyse, j'ai bien constaté que toute la recherche que j'avais faite pendant des années de grands maîtres spirituels, puisque je courais de maître en maître, ça venait uniquement de cela, c'est-à-dire de cet accrochage à mon grand-père.
Oui, accrochage et disparition brutale.
Et disparition brutale aussi.
Qui crée un manque et donc le besoin de combler ce manque.
Absolument.
Oui, qui semble assez naturel. Alors, puisque vous aviez ce modèle si fort, si puissant autour de vous, au-dessus de vous, à côté de vous, pourquoi ne pas avoir suivi sa voie? Et pourquoi ne pas être devenu rabbin?
J'ai failli devenir rabbin. J'ai failli suivre sa voie. J'ai failli, après mon bac de philo, j'ai failli choisir la voie du séminaire rabbinique. Mais alors là, c'est l'influence de mes parents qui a fait que je n'ai pas pris cette voie.
Et pourquoi vous
l'avez l'influence pas de... Parce que je pense que mes parents n'étaient pas, ne l'auraient pas accepté. Ne l'auraient pas accepté pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on avait traversé, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, puisque je suis né en 1934, donc j'avais 5 ans. À la déclaration de guerre en 1939, mon père a été mobilisé. Ensuite, Je pense qu'il y a eu toute... J'ai eu un oncle qui a été brûlé à Dachau, hein, et donc il y a eu tout cet antisémitisme qu'on a traversé pendant la guerre, et particulièrement aussi en Algérie, bien qu'on n'ait pas eu à subir les atrocités qu'ont subi les Juifs européens. Mais donc tout ça nous amenait en tout cas mes parents à prendre, pas mon père, mais ma mère, prendre de la distance par rapport à une non-intégration, si on peut dire, à la culture française. Ma mère était très intégrée et ne pensait qu'à une seule chose, c'était quitter l'Algérie pour aller s'installer en France. Et c'est, en fait, c'est à cause d'elle, si je suis venu ensuite à Paris faire mes études. Elle y tenait énormément.
Donc là, vous êtes un bon garçon. Vous suivez votre père, s'il ne souhaite pas que vous deveniez rabbin, et vous suivez votre mère qui vous envoie en métropole.
Voilà.
Un bon garçon, hein, comme on dit.
On peut le dire, on peut le dire jusqu'à un certain point.
Voilà,
je le
dis en souriant, parce qu'en vous lisant, Alain Mselec, on se rend compte aussi qu'il y a quand même un état de rébellion permanente chez vous.
Absolument.
Notamment par rapport à des valeurs établies, que ce soit des valeurs établies de la société, ou même par rapport à votre maître Freud, vis-à-vis duquel vous avez une grande liberté.
Puisque absolument, heureusement.
Vous avez pris beaucoup de lui, mais vous vous sentez tout à fait capable aussi de montrer ses limites qui seraient dues à son époque, ou bien sûr. Tout ce qu'il dit sur les femmes auxquelles vous n'adhérez pas.
Absolument, c'est-à-dire je pense que la psychanalyse, de toute façon, c'est un chemin de liberté. Et hors de ce mot « liberté », d'ailleurs, si je devais résumer la psychanalyse, pour moi, je la résumerais avec deux mots.
Allez-y.
Le mot désir et le mot liberté.
Oui.
En dehors de désir et de liberté, si ces deux mots ne sont pas inclus dans une définition de la psychanalyse, je ne suis pas d'accord pour appeler ça de la psychanalyse.
Donc on continue à suivre votre biographie, enfin les étapes principales. Et on se demande pourquoi la psychanalyse ? Pourquoi êtes-vous allé ?
Oui.
Vous n'avez pas commencé par la psychanalyse, vous avez fait d'autres métiers d'abord.
Oui, puisque je voulais, à vrai dire, être médecin. Il faut s'arrêter peut-être un petit peu à ma classe de philosophie qui a été aussi déterminante, puisque j'ai eu un professeur, Jean Chosky, qui a été extrêmement important pour moi aussi. C'est une figure très importante dans mon destin. Il m'a appris, cet homme m'a appris justement à ne prendre rien sans examen, sans critique même.
Mais vous auriez pu y être prêt à travers le Talmud, qui sans cesse remet en question ce qui a été dit par
absolument.
Les prédécesseurs. Donc, disons
absolument,
que,
mais ça je ne l'ai découvert que plus tard.
Oui, mais dans le berceau familial, peut-être inconsciemment,
oui.
Il devait y avoir, j'imagine, cette volonté de remettre en question toute vérité trop assise, trop établie.
Peut-être.
Oui.
Peut-être.
Et donc, ça n'est pas impossible qu'à ce moment-là, la classe de philo ait réveillé quelque chose qui sommeillait de manière inconsciente.
Sans doute, voilà. Sans doute,
moi,
bien sûr.
J'essaie d'y aller dans votre inconscient.
Mais oui, d'accord, ok, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Bon, oui. Alors, nous continuons. Donc, cette classe de philosophie a été déterminante pour justement ne pas vous installer dans un système clos ou dans un système dogmatique.
Absolument.
C'est un fil rouge à travers tous vos livres, le refus de toute forme de dogmatisme.
Absolument.
Ou pour citer Jean Grenier, que vous citez vous-même d'ailleurs dans un de vos livres, le refus de tout esprit d'orthodoxie.
Tout à fait. J'ai toujours vécu dans une certaine marge. Et même aujourd'hui, dans la psychanalyse, je me sens en marge. Ça, ce qui me permet d'avoir un certain regard sur la psychanalyse que je trouve intéressant du fait que je suis à la marge.
Oui, intéressant et piquant.
Voilà, peut-être.
Ah oui, ça, il vous arrive de piquer. Alors, nous en venons au moment où Vous faites le choix de la psychanalyse. Vous avez quel âge ?
La psychanalyse. Alors, quand est-ce que j'ai fait le choix de la psychanalyse ? Parce qu'il y a ce qu'on peut observer comme ça d'un point de vue social. Et puis, si on cherche à voir un petit peu les motivations un peu plus tard, un peu plus en avant, le choix de la psychanalyse, ben, je pense que je l'ai fait déjà, même avant cette classe de philosophie. Parce qu'il s'est passé une chose extraordinaire. J'étais, je devais être en seconde, et j'étais, à un moment donné, j'étais grippé au lit, et mon père m'a amené un livre en me disant, voilà, on vient de m'offrir ce livre, tu peux le lire. C'était un de ses clients qui lui avait offert ce livre, et ce client, c'était un juge de Marseille qui faisait du spiritisme, et qui... comme ça, avec un Ouida, c'est une plaque, enfin, ce qu'utilisent les spiritistes, ils communiquaient soi-disant avec les morts, ils communiquaient notamment avec Victor Hugo, etc., etc. Et dans ce livre, on parlait de grands maîtres qui se trouvaient aux Indes et qui avaient une culture psychologique qui rendait inepte la psychanalyse. La psychanalyse serait dans l'enfance par rapport à cette science de ces maîtres hindous. Et dans ce livre, on parlait de Jung, justement. Et donc, ça a été la première fois que je découvrais Jung comme ça. J'étais en seconde. Et alors, il y a eu toute une série de synchronicités, dirait Jung. Hein, parce qu'à quelque temps de là, je suis tombé dans une librairie à Alger sur un livre en vitrine qui était « Les essais de psychologie analytique de Jung ». Qui est traduit par Yves Lelay, c'est une édition qui est maintenant complètement épuisée. Et c'était avec une couverture rouge, je me souviens, je l'avais vu dans la vitrine, ça m'avait frappé cette couverture rouge, ça m'avait attiré. Et donc c'est là que j'ai découvert à travers ce livre, Jung, et aussi le yoga, parce qu'il parlait dans ce livre de ces maîtres hindous, justement. Et à quelque temps de là, dans une autre librairie, en vitrine encore, je suis tombé sur un autre livre rouge. Oh, c'est incroyable, parce que la couverture rouge...
Le dernier est rouge. Oui. Et la chemise que vous portez, pas aujourd'hui, pardon. Non. Enfin, il y a des petits traits rouges.
Oui.
Mais celle que vous portez sur la couverture de l'ouverture à la vie, oui. Ah, c'est du beau rouge aussi. Oui.
Et donc, cette couverture de livre était encore rouge, et c'était Yoga et psychanalyse de Marie Choisy. Alors, je suis rentré, j'ai lu ça, et ça m'a passionné. Et ensuite... Il y a eu un deuxième livre de Marie Choisy avec couverture rouge qui était « La métaphysique des yogas ». Bon, alors c'est là que quelque chose s'est passé par rapport à la psychanalyse. Parce que c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la psychanalyse et à m'intéresser à Jung, mais à m'intéresser aussi à Freud. Parce que Jung m'a amené à Freud. Et donc... Quand je suis entré en classe de philosophie, j'avais trois personnages, trois penseurs, si je peux dire, qui ont été déterminants dans cette classe de philosophie. C'était ce que je vous disais déjà, Jung et Freud. Et le troisième... qui allait naître dans ma classe de philosophie, c'est Bergson. Donc je crois que ces trois-là m'ont accompagné à partir de là, m'ont accompagné constamment. Et donc, si je suis devenu psychanalyste, c'est sûrement là que ça s'est déjà enclenché.
Donc avant de devenir psychanalyste, vous allez suivre des psychanalyses. Et la première, pendant 4 ans est une analyse bioénergétique. Nous avons besoin, monsieur, de quelques explications.
Alors, l'analyse bioénergétique, ça vient d'abord de Wilhelm Reich, donc ce disciple dissident de Freud, qui était plus ou moins marxiste aussi, et qui, après avoir été très freudien, a commencé à prendre de la distance par rapport à Freud. Et c'est lui qui a créé de nouvelles techniques, je ne dirais pas de psychanalyse, parce que là, il commençait à s'éloigner de la psychanalyse. Mais enfin, il y a eu l'analyse caractérielle qui était encore quelque chose qui restait dans la psychanalyse. C'est-à-dire que Wilhelm Reich faisait une lecture du corps de la personne, et grâce à cette lecture du corps, il décelait des tensions dans les parties du corps qu'il a appelé l'ensemble de ces tensions formant une cuirasse musculaire. Et il en est venu à l'hypothèse que à cette cuirasse musculaire correspondait une cuirasse caractérielle.
Et c'est parce qu'on a telle tendance de caractère que l'on va éventuellement se protéger contre une éventuelle faiblesse que notre inconscient connaît. Ce serait cela ?
C'est pas ce que disait Reich. Hein. Reich disait que dans la vie, dès que nous avons des conflits, nous créons des tensions. Et que ces tensions musculaires nous limitent. Mais en même temps, elles correspondent, elles créent aussi un caractère.
Oui, alors donc elles sont comme une sorte de vocabulaire.
Oui, si vous voulez. C'est surtout une armure, oui. un ensemble de défenses.
Oui, mais à ce moment-là, le psychanalyste doit les analyser.
Absolument. Voilà, et donc l'analyse du caractère, c'était commencer à examiner le corps de la personne dans différentes positions, dans différentes expériences corporelles, pour déceler là où il y a des tensions, essayer de les assouplir et en même temps essayer de voir l'origine de ces tensions, l'origine psychique de ces tensions.
Alors, donc ça, vous avez suivi pendant des années.
Non, alors ça, c'est Reich, c'est initialement oui. Reich.
Moi, je vous interroge sur votre analyse à vous.
Oui, alors moi, mon analyse à moi, l'analyse bioénergétique, ça a été développé à partir des travaux de Reich par un disciple de Reich qui s'appelait Alexander Lowen et qui a fondé l'analyse bioénergétique.
Et donc là, pendant 4 ans,
j'ai suivi. La formation et une analyse bioénergétique.
Qui vous sert aujourd'hui dans votre travail de psychanalyste ?
Je ne dirais pas que... Non, j'ai abandonné complètement l'analyse bioénergétique parce que je reste très critique par rapport à cette analyse bioénergétique. Hein. Simplement, pour moi, pourquoi je suis critique ? C'est-à-dire que je trouve là... c'est trop violent, c'est beaucoup trop violent. Et ça manque d'éthique aussi. On n'a pas l'éthique du cadre analytique.
Et vous en êtes rendu compte sur le moment ou c'est une analyse que vous faites a posteriori ?
C'est venu petit à petit. Hein. Les choses, ce n'est pas immédiat, sinon je n'aurais pas tenté cette expérience-là. Mais oui. En même temps... c'est venu tout doucement.
Et alors ensuite, 7 ans d'analyse jungienne.
Voilà, donc...
C'est long.
C'est long, oui, mais c'est indispensable de faire une analyse longue quand on devient praticien, hein, soi-même. Donc, cette analyse est due à une rencontre aussi. Et c'est dû aussi à une rencontre, parce que ce qui a marqué ma vie, c'est des rencontres, hein, c'est des rencontres avec des hommes, alors avec des hommes ou des femmes, mais avec des êtres humains, soit des êtres humains en chair et en os, soit des êtres humains comme Bergson, que je n'ai jamais rencontré, mais je l'ai rencontré, je pense, en le lisant. Donc, où ce sont des rencontres virtuelles ou des rencontres réelles. Mais je crois que je n'ai progressé qu'en allant de rencontre en rencontre.
Après cette analyse jungienne, vous auriez pu vous orienter vers la psychanalyse, enfin, disons, l'analyse de type jungien.
Absolument, mais j'ai commencé à faire de l'analyse jungienne. Oui. J'étais membre de la société jungienne.
Et pourquoi interrompre et pourquoi aller vers Freud ? Alors que l'on connaît quand même, je ne dirais pas l'hostilité, mais enfin en tout cas les tensions qu'il y a entre Jung et Freud.
Oui, mais justement, en examinant ces tensions, j'ai donné raison à Freud. Et il me semble que je ne veux pas rejeter entièrement Jung, loin de là, parce que Jung était quand même... quelqu'un est toujours quelqu'un de très important, mais c'est quelqu'un qui, à mon avis, est un peu dangereux. C'est-à-dire, on ne peut pas le prendre en entier. Si on le prend en entier, c'est très dangereux.
Bah, vous ne prenez pas non plus Freud en entier.
Non plus.
Peut-être que vous ne prenez rien en entier, sauf la vie. Bon,
voilà.
Ça, c'est une autre question. Voilà. Donc, après Jung, Freud.
Après
à cause d'une insatisfaction. Vous vous êtes rendu compte de ce que vous soulignez maintenant, après cette analyse.
Oui, c'est-à-dire que c'est surtout le milieu jungien, la manière de parler des cures analytiques avec les archétypes. On donne trop, dans l'analyse jungienne, d'importance aux images archétypiques. Et pour moi, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux parce que là, on est...
D'un autre côté, il y a chez Jung un appel au féminin, un appel au symbole.
Absolument.
Un appel au corps, tout cela que l'on retrouve dans votre démarche à vous.
Absolument. Mais pas sous la forme d'un inconscient collectif. Pour moi, il faut revenir à l'inconscient personnel, à l'inconscient freudien.
Donc, ensuite, 4 ans d'analyse freudienne.
Quatre ans d'analyse freudienne.
Là, c'est une analyse assez courte, mais vous aviez quand même pas mal d'années d'analyse derrière.
Oui, absolument. Et puis, l'analyse ne s'arrête pas. Quand on a terminé, on en a terminé avec un analyste et que l'analyse a pris... Elle continue toute la vie, mais elle continue sans analyse.
Oui, vous voulez dire qu'à tout moment de votre vie, l'analyse...
Elle continue à l'intérieur de moi.
Oui.
Et c'est évident. Et elle continue aussi à travers mes patients, parce que l'analyse, la pratique analytique me conduit normalement à analyser mes contre-transferts aussi. Sans quoi il n'y aurait pas d'analyse vraiment.
If they made me a king, I'd be but a slave to you. If I had everything, I'd still be a slave to you. If I rule the night, stars and moon so bright, still I'd turn for life to you. Baba Doze. If the world to me bow, yet humbly I'd plead to you. If my friends were crowd, I'd turn in my knee to you. If I'd rule the earth, would life be worth if I hadn't arrived to life be worth if I hadn't the right Baba to
France Culture, question de sens, fort intérieur, avec Alain Amselek. Alors, quelque chose d'important de votre inconscient est remonté au cours de cette musique, de ce chant?
Oui, ça me rappelle mes 18 ans. Voilà, alors, c'est tout à fait l'époque où l'Algérie, justement, avait, puisque c'est à 18 ans que j'ai quitté l'Algérie pour venir à Paris faire mes études. Et donc, ce morceau de jazz de Louis Armstrong marque ce temps juste avant mon départ. Et c'était toute l'Algérie, mes 17 ans et mes premiers émois amoureux. Voilà, et le jazz.
Vous avez la nostalgie de la terre d'Algérie ?
La nostalgie, oui et non. Oui et non, parce que c'est très important. J'y pense avec amour et avec joie. Mais je n'ai pas la nostalgie au sens où j'aimerais y retourner. Non, je n'aimerais pas y retourner.
Oui, pour vous, la page est tournée.
La page est tournée, oui.
Bon, restons dans les pages et vos ouvrages. Vous considérez que les trois ouvrages que j'ai devant moi, L'écoute de l'intime et de l'invisible, avec comme sous-titre La psychanalyse, plus encore,
oui,
avec un jeu de mots,
oui,
presque lacanien. Le deuxième, L'appel du réel, la psychanalyse en question, avec un S entre parenthèses. Et le troisième, celui qui vient de sortir, L'ouverture à la vie, avec comme sous-titre La psychanalyse au XXIe siècle. Vous considérez que ces trois ouvrages forment un triptyque,
oui,
et que la suite de ces trois ouvrages, quelque chose se fermera.
Je ne sais pas si quelque chose se fermera à la suite de comment peut-on dire ça. C'est-à-dire, je ne sais pas. Justement,
ça forme une série en quelque sorte.
Oui, ça forme, ouais, ça forme par hasard une série,
ouais,
parce que c'est le même mouvement à travers les trois livres qui me portent. Mais je termine justement ce dernier livre avec un petit poème où je mets le refus du clos. Hein,
oui, la vie continue. Mais là, je parlais justement de ce travail littéraire à travers ces trois ouvrages. Donc, à mon avis, d'ailleurs, c'est le troisième qui est le plus intéressant, le plus riche, le plus
oui,
épanoui. Mais rapidement, on va explorer deux, trois points de chacun des deux premiers. Dans le premier, vous insistez sur quelque chose qui qui fait vraiment partie très fondamentalement de votre démarche, c'est la relation au corps.
Oui.
Pour vous, dans la relation entre celui qui est analysé et l'analysant, il doit se passer quelque chose sur le plan du corps.
Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est dû, bien entendu, à toute la démarche dont on a parlé, et donc à ce regard qui me vient, bien sûr, de mes précédents travaux, c'est-à-dire l'analyse bioénergétique, si je l'ai complètement mis de côté, elle m'a apporté quand même sur le plan clinique une certaine considération par rapport au corps. Et justement, comme en psychanalyse, on ne s'occupe pas du corps, puisqu'il est censé être dépassé dans le corpus analytique, moi, je pense que on peut pas exclure l'importance du corps, l'importance de la chair d'ailleurs, parce que j'appelle plus que le corps, qui est pour moi un ensemble de phénomènes physico-chimiques, c'est-à-dire de l'inerte, je préfère dire la chair, qui correspond au sensible et à la vie.
Mais de manière pratique, cela se traduit comment dans vos analyses avec vos patients?
Ça se traduit d'abord par un regard, c'est-à-dire une considération. Et surtout, une attention à ma propre chair. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en moi, dans ma chair, à chaque instant de l'analyse?
Alors, là, vous parlez quand vous êtes en train d'analyser, et non vous êtes analysé. Mais le patient aussi doit peut-être sentir ce qui se passe dans sa chair à lui.
Absolument.
Oui, les
absolument.
Deux, alors.
C'est-à-dire que la psychanalyse, c'est la rencontre, pour moi, de deux écoutes. Il y a l'écoute de l'analyste, dont on parle abondamment, mais on ne parle jamais de l'écoute de l'analysant. Or, l'analysant, il ne fait pas que parler. Pour parler, la parole analytique, c'est une parole qui exige une écoute. Une écoute de soi, une écoute de sa chair et une écoute de ce qui se passe en même temps dans la séance avec cet homme présent ou cette femme présente qui est là, qui est en fonction, en position d'analyste. Et il se passe des choses quand même entre ces deux corps.
D'un point de vue symbolique, ou quelquefois même d'un point de vue plus tactile.
Pas d'un point de vue symbolique. Les émotions, ça se transmet. Il y a contagion des émotions. Il y a contagion d'un tas de choses, bien entendu. Alors, l'analysant est couché, est allongé. L'analyste est derrière lui et est censé écouter. Et Freud dit, dans l'analyse profane, il dit, qu'est-ce qui se passe dans une analyse? Rien d'autre que ils se parlent.
Et vous, vous dites non.
Et moi, je dis non.
Non.
Je dis non. Bien
vous
sûr,
dites, vous dites,
il se parle, oui, peut-être,
mais
ce n'est pas suffisant de dire
plus,
ça.
Oui,
il y a beaucoup plus,
c'est-à-dire,
mais c'est rien du tout, cette parole qui est dite là.
Oui. Donc il y a échange d'émotions.
Il y a échange au niveau émotionnel, il y a échange peut-être aussi au niveau énergétique. Il y a quelque chose. On vient de faire paraître une réédition de Doolittle, qui était une poétesse, la poétesse Doolittle, qui a été analysée par Freud. Et elle dit, dans ce dernier livre qui s'appelle « Pour l'amour de Freud », elle dit « Il m'est impossible de classifier mes séances pour pouvoir les décrire d'une façon logique ou chronologique. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce que je peux en dire, c'est que c'était simplement une atmosphère. c'était une atmosphère. Un autre livre qui vient de sortir aussi, c'est qui est l'analyse d'une patiente de Freud en 1923. Et que sa petite fille a retrouvé le journal dans son grenier et elle l'a fait paraître il y a 2 mois. Elle s'appelle Anna G., l'analysante. Et donc, dans ce livre d'Anna G., il y a cette... D'abord, on découvre comment procédait Freud dans ses analyses et c'est ahurissant de voir à quel point il pouvait intervenir de façon intempestive avec des interprétations parfois très violentes et en les bombardant, il assénait ses vérités comme ça. Alors ça, c'est très intéressant déjà de voir ça. Mais la deuxième chose, moi j'ai trouvé, il y a une phrase formidable de cette patiente de Freud qui dit... Ce que Freud pouvait bien me dire n'avait aucune importance par rapport à sa présence dans la même pièce que moi.
Oui, donc alors, en insistant sur le corps, les émotions, la les présence. Échanges d'énergie, vous vous sentez dans la ligne de Freud.
Oui.
Pas forcément dans la ligne des Freudiens.
Pas forcément dans la ligne
mais
des
Freudiens. Mais dans la ligne de Freud, oui. Là, ce que vous venez de dire vous apporte la preuve que vous étiez sur la bonne voie par rapport à Freud.
Absolument.
Vous allez assez loin, parce que dans le deuxième volet du triptyque, l'appel du réel, vous donnez un cas qui est très, très fort, d'ailleurs, cas de Sylvie, d'une jeune femme qui était suicidaire, qui vous est envoyée par une autre... Vous essayez de la sauver, elle va ensuite, malgré tous vos efforts, elle va replonger dans la scène, elle va être sauvée malgré elle, et plusieurs séances se passent sans un mot. Vous acceptez d'ailleurs qu'elle vous prenne dans ses bras, ou que vous la preniez dans ses bras.
Absolument.
Et la séance, c'est uniquement, vous êtes un homme, c'est une femme, c'est une jeune femme...
Oui.
Vous êtes un homme dans la force de l'âge,
oui.
Donc il y a forcément un risque là, il y a un risque.
Oui, oui et non. C'est-à-dire, quel est le risque
que le désir soit trop fort d'un côté ou de l'autre.
Oui, mais il y a une éthique.
Il y a une éthique
mais... et je connais mon éthique.
Bon,
donc c'est ça qui compte avant tout.
Il y a une éthique, mais disons que ce qu'il y a de frappant, c'est que la séance de psychanalyse se passe alors que vous êtes en quelque sorte enlacé, chastement, nous sommes d'accord.
Oui,
c'est vraiment corps à corps.
Mais en même temps, c'est provisoire. C'est un moment...
C'est plusieurs séances.
Oui, mais provisoirement. Bah, oui, il y a eu... peut-être 4 ou 5 séances comme ça, mais où elle était dans une régression. J'apporte simplement un soutien à sa régression.
Oui, mais ça veut dire que vous acceptez qu'on.
Il y a rien de sexuel là-dedans. Enfin,
je n'ai pas dit que ça l'était. J'ai dit qu'il y a un risque. Je n'ai pas dit que ça l'était. D'ailleurs, que vous le racontez, il n'y a rien de tel.
Oui,
mais là où je voulais aller, c'est que, en fait, ça va à l'encontre de ce que disent les psychanalystes. Ils disent qu'il ne doit pas toucher l'analysant.
Oui, parce qu'ils sont frileux. Ils sont frileux. Bien sûr, ils sont frileux. Ils ne veulent pas s'impliquer. Et moi, je dis que s'il n'y a pas implication... Alors, bien sûr, attention, entendons-nous.
Jusqu'où,
bien sûr que l'implication, ça ne veut pas dire n'importe quoi. Hein. L'implication, c'est une implication analytique. Ce n'est pas n'importe quoi. Et là, je n'avais aucun problème personnellement parce que... J'étais sûr de mon éthique. Ouais. Si j'avais eu le moindre doute...
Vous auriez refusé.
J'aurais refusé. Oui. D'autant plus que c'est elle qui avait demandé. C'est pas moi qui ai imposé quoi que ce soit.
Mais alors, la psychanalyse telle que vous la pratiquez, donc en vous investissant totalement, doit rendre les séances épuisantes.
Oui, on ne peut pas sortir indemne d'une séance d'analyse, oui. Bien sûr, oui. Absolument.
Pour l'analyse, mais pour vous
mais
aussi.
Mais en même temps, bien sûr, absolument.
Par rapport à des psychanalystes qui restent apparemment froids.
Mais c'est ce que je dis. Je dis que le retrait de certains psychanalystes dans un mutisme froid et glacé, c'est quelque chose... de criminels, pas dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, c'est quelque chose de criminel.
Donc dans l'ouverture à la vie, vous insistez beaucoup sur cet aspect émotionnel, et vous insistez beaucoup aussi sur tout ce qui doit se trouver au-delà du langage.
C'est l'essentiel pour moi. C'est-à-dire, là aussi, si vous voulez analyser, faire mon analyse, je crois que une chose essentielle dans ma vie, ça a été que j'ai toujours eu cette intuition qu'il y a un au-delà du langage. Vous savez, Bergson disait que chaque penseur est la proie d'une intuition qu'il poursuit toute sa vie et il a beau essayer de la décrire pour la circoncire, il n'y arrive jamais et il faut toujours qu'il recommence. Bien, c'est un peu ça. Moi, depuis ma petite enfance, je suis face à quelque chose qui, pour moi, est au-delà du langage et qui, pour moi, m'apparaît vraiment comme le plus important. Comme très important. Et donc, je me suis toujours cogné à ça. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça m'évoque une phrase de Lacan qui dit « Le réel, c'est quand on se cogne ». Eh bien, justement, le réel, c'est ça. C'est ce qui est au-delà du langage, au-delà des représentations. Ce n'est pas simplement de l'y représenter, qui pourrait être représenté à un moment ou à un autre. Non, c'est de l'irreprésentable à jamais irreprésentable, qui ne peut pas, que le langage perd.
Qui est donc quelque chose qui existe en nous.
Absolument.
Et qu'on ne pourra jamais traduire en mots.
Absolument, qu'on peut éprouver. Mais qu'on peut éprouver, et que les poètes, les musiciens, les artistes arrivent à exprimer de façon détournée, de façon... Mais il y a quelque chose qu'ils poursuivent, là.
Et votre travail d'analyste consiste à saisir cette part de l'être humain qui ne sortira jamais par le langage.
Absolument. C'est-à-dire, nous sommes... Au départ d'une psychanalyse, nous sommes dans des jeux langagiers, parce qu'évidemment, quand quelqu'un entre en analyse, il se trouve dans une insécurité foncière, sinon il n'entrerait pas en analyse. Et donc, par rapport à cette insécurité, il est évident que nous allons entrer dans des jeux langagiers. Et que sa parole, la première parole d'un analysant, c'est une parole de discours qui est construite avec la raison raisonnable et résonante. Mais si l'analyse se poursuit et va plus loin et va dans des profondeurs, l'analysant va entrer dans une nouvelle parole. Qui est une parole de vie et qui est une parole qui n'a plus rien à voir avec la raison. Ça ne veut pas dire qu'elle est antirationnelle, mais ce n'est plus une parole construite par la raison.
Et vous sentez le moment où il y a un passage entre ce qui est structuré par la raison et ce qui vient des couches les plus profondes ? Vous le sentez,
mais bien sûr, parce qu'une parole de vie, ça éclate.
Ça éclate.
C'est bien sûr.
Oui. Et que le passage entre A, B, C, D ne se fait pas de manière
C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le ronronnement d'une pensée qui justement, résonne. Elle résonne, mais au sens pas R-A-I. S-O-N-2-N-E, mais raisonner au sens de résonance.
Comme une cloche, oui.
Voilà. Oui. Il y a de la résonance. Oui. Il y a de la résonance dans l'analyste. Donc, il y a une résonance de part et d'autre. Donc, il y a une rencontre de deux écoutes, comme je disais tout à l'heure.
Ça demande,
il y a une rencontre
de
deux écoutes.
De l'analyste, beaucoup d'intuition. Là. Si on est au dehors de ce qu'on peut appeler la raison résonante, c'est une autre part de vos capacités qui doit saisir l'autre.
Alors, c'est là où intervient le cadre analytique et la puissance de ce dispositif analytique, et qui pour moi, c'est le joyau de la psychanalyse, c'est pas la théorie. Hein, la théorie, pour moi, il y a une phrase d'André Breton qui dit « Cette femme dans la rue est toute nue sous sa robe ». Eh bien moi, je dirais que la psychanalyse est toute nue sous ses vêtements théoriques. Sous ces théories, et que c'est à la psychanalyse toute nue que les praticiens ont affaire.
Devraient
c'est pas
avoir
vos théories,
affaire.
Ou devraient avoir
parce
affaire.
Parce qu'on voit bien à travers vos ouvrages que vous critiquez justement toute la conceptualisation qui a été faite autour de la psychanalyse.
Absolument, oui. et moi je pense que ce qui a tué en partie la psychanalyse, on le voit aujourd'hui hein, dans tous ces débats, entre Onfray, etc., avec Michel Onfray, on voit...
Il y a énormément d'erreurs dans le livre d'Onfray, écoutez.
Ah, absolument.
Oui, c'est bourré d'erreurs.
C'est une honte, même.
Autant que quand il parle de Saint-Augustin, sans l'avoir lu.
Absolument.
Fermons cette parenthèse, on a des choses plus intéressantes à dire.
Oui, non. Alors, ce que je disais, c'est que... ce joyau de la psychanalyse, c'est le dispositif analytique, le dispositif que Freud a créé sous la pression de ses premières patientes.
Dispositif, c'est-à-dire la position,
c'est-à-dire la disposition d'écoute et le fait qu'il y a une règle fondamentale en deux volets. Alors, un volet qui est celui pour moi, le principal, c'est-à-dire même chronologiquement, puisque d'abord Freud a parlé de passivité en éveil de l'analyste, et ensuite cette passivité en éveil est devenue ce qu'il a appelé l'attention également flottante. Donc écoute avec attention également flottante, ça c'est le volet pour l'analyste. Mmh. Et de l'autre côté, la parole... En roue libre, on pourrait dire, qu'on appelle la règle d'association libre, et qui fait que l'analysant va passer d'une parole à une autre, d'un type de parole à un autre type à un moment donné.
Oui, c'est pour ça qu'on va toucher l'inconscient.
Et alors, pourquoi il va se passer ces choses-là à cause de l'attention flottante. Parce que l'attention flottante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'analyste entre dans une écoute qui est égale d'une méditation. Ça veut dire qu'il fait le noir. Freud disait « je fais le noir » dans une lettre à Lou Andreas Salomé. Il disait « je fais le noir » dans mes séances.
Alors, mais ça veut dire de ne pas être directif du tout. Et ça,
mais
vous
pas,
insistez.
Pas seulement ça. Ouais. Ça. Il faut l'entendre encore plus loin. Ça veut dire presque ne plus penser, ne plus juger. C'est ça. L'écoute avec attention également flottante, ça veut dire ne pas censurer, ne pas sélectionner ce qui est dit en disant « ça c'est important, ça c'est pas important hein, », mais entendre le tout et ne retenir rien. C'est ça que disait Freud. Hein. Et à la limite, ça veut dire ne plus penser, donc être uniquement dans un sentir charnel qui est sensoriel, extrasensoriel, et intuitif aussi, donc c'est ça, ce fameux sentir. Qui,
en fait, vous êtes à la recherche de l'expression de la vie dans sa totalité, et non pas la vie telle qu'elle apparaît filtrée par la raison, filtrée par le langage.
C'est-à-dire les données immédiates de la conscience de M. Bergson.
On retrouve Bergson, oui. Alors, vous insistez aussi beaucoup dans vos ouvrages sur le féminin. On a un peu tourné autour. Oui. Je renvoie donc surtout à vos livres pour trouver, pour aboutir quand même à ce que vous nous dites, c'est que pour vous, la psychanalyse au XXIe siècle doit intégrer beaucoup plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à maintenant la puissance du féminin.
Absolument. Et aller vers du spirituel. Car c'est ça, c'est la vie. Parce que pour moi, la vie, c'est le spirituel.
Ainsi se termine Fort Intérieur, une émission d'Olivier Germain-Thomas avec comme invité Alain Amselet qui a choisi les musiques que vous avez entendues. D'abord pour que la nostalgie de ses 18 ans ressurgisse, If par Louis Armstrong. Et actuellement, puisque nous avons terminé sur le mot spirituel, l'Allegretto de la symphonie numéro 6 en Fa, dite pastorale, mais c'est de la nature pastorale qui rejoint l'océanique, pourrait-on dire, en tout cas le spirituel, de Ludwig van Beethoven. Les ouvrages d'Alain Amselet, donc je vous revois principalement au dernier, rouge, hein, une grande couverture rouge et une chemise rouge, l'ouverture à la vie, la psychanalyse au XXIe siècle. Et nous avons abordé rapidement d'ailleurs l'appel du réel, la psychanalyse en question, dans lequel il y a cette histoire très poignante de Sylvie, enfin elle ne s'appelle pas pour de vrai Sylvie, puisque l'éthique fait que vous donnez un autre prénom, bien sûr, que le prénom réel. Et auparavant, il y avait eu l'écoute de l'intime et de l'invisible, avec comme sous-titre la psychanalyse plus encore. Et nous avons vu avec vous combien le corps est important. Alors, la semaine prochaine, nous allons nous retrouver avec un spécialiste de Dostoïevski, Jacques Cato. Je vous ai fait une émission autour de Tolstoï dans cette année russe. La semaine prochaine, nous allons voir Dostoïevski. Et le vendredi 4, nous serons avec Nadia Benjeloun qui nous parlera du Festival de musique sacrée de Fès, qui est un grand moment de rencontre spirituelle, des trois principales religions, mais il y aura aussi de trois principales religions monothéistes, mais il y aura aussi des représentants de l'Inde, de la Chine, une grande rencontre à Fès qui reste un haut lieu de rencontre spirituelle.